I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Raphaël Lacrousse pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Yann Dacta. Salut Yann.
Salut Raphaël, ça va, tu vas bien?
Très bien, merci. Bienvenue à toi dans BPM.
Merci.
Yann, producteur et ingénieur du son, membre d'un duo avec Red Nose. Vous avez collaboré avec Sadek, PNL, Da Uzi, Zixo, Rimkus ou encore récemment Werenois. Qui est-ce qui compose? C'est Yann Dacta et Red Nose, la fameuse phrase justement prononcée par Sadek. Mais avant aussi, on vous a connu sous un autre nom, qui était Abyss Music, si je ne m'abuse, c'est ça?
Alors, Abyss Music, c'est toujours d'actualité.
C'est toujours d'actualité, ok.
Mais c'est le label et nous, on est un duo de compositeurs qui s'appelle Yann Dacta Red Nose,
voilà,
qui avons ce label-là.
Très bien, c'est bien de le préciser.
Et un studio, parfois, enfin des studios.
Des studios, parce que parfois, il y a confusion dans les crédits.
Ouais, il y a confusion.
Il y a plein de noms qui, parfois, on vous voit Yann Dacta Red Nose tout attaché, parfois, voilà, avec Abyss Music. Donc, voilà, au moins comme ça, tous les crédits au début de cette émission sont bons. Avant qu'on parle justement de ton parcours de musicien, d'ingénieur du son, j'aimerais qu'on parle de ton parcours d'auditeur. Yann, c'est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique?
Alors, mes premiers souvenirs liés à la musique, c'est vieux. On va pas commencer du début, on va commencer à partir du hip-hop, parce que sinon, c'est compliqué.
T'as grandi dans une famille musicale où il y avait des gens qui écoutaient beaucoup?
Non, pas du tout.
Ok.
Pas du tout. Mais c'est moi qui suis venu tout seul à la musique. Et on va dire que mes premiers souvenirs, c'était Mafia Quin Free, du côté français.
Ok.
Et côté américain, Mobb Deep à droite et on va dire Dr. Dre à gauche. Hein.
Donc, t'es un enfant du rap des années 90, en fait, c'est ça?
Exactement. Je suis né dans les années 80, moi. Donc, ça veut dire que dans les années 90, j'étais auditeur.
Ok. T'étais un adolescent et tu te manges le rap français-américain à ce moment-là, quoi.
Exactement.
Ok. Est-ce qu'il y a un morceau ou des morceaux en particulier comme ça dont tu te souviens qui ont été marquants dans ton parcours d'auditeur déjà de rap?
Ouais,
parmi les groupes que tu as cités ou d'autres?
Bien sûr, il y en a un paquet. Après, j'ai Still Dre comme tout le monde. On s'est mangé une grosse baffe quand Still Dre est sorti. Je pense que c'est le son qui m'a baffé dans ma jeunesse. Après, on va dire Ideal J, genre l'amour, les sons comme ça.
Donc
là,
sur l'album Le Combat Continue qui sort en 98. Ouais.
C'est ça.
Le jour où je serai mort, je veux qu'on se rappelle. Je n'ai jamais rêvé d'une vie telle que celle que je mène. La haine, je suis pas né avec et ça, je le revendique. Pour ces acolytes qui héritaient le mélancolique. Mon douleur dans mon cœur, ma soeur, je ne sais pourquoi.
Voilà, c'est deux sons très marquants pour moi. Puis on va dire aussi Mauvais œil de Lunatic. Cet album-là m'a mis une bonne baffe en tant qu'auditeur dans ma jeunesse.
Ah, c'est un album classique du rap français.
Un classique des classiques.
Exactement, qui a marqué beaucoup de gens. Tu m'as cité spontanément justement Ideal J, Mafia Quin Free. C'est parce que tu as grandi dans le 94?
C'est ça.
Ok. Ouais. Tu es d'où? C'est pas du
J'ai grandi au Plessis-Trévise, moi.
Ok.
Ouais. Dans le 94, donc voilà, derrière, entre Champigny, Pont-au-Combo, Noisy-Grand, tout ça.
Ok, donc c'est la limite avec le 77, tout ça,
c'est
ça?
La limite 77-93, mais 94.
Tout à fait. Est-ce que justement, dans ton entourage adolescent, déjà kiffeur de son, il y avait aussi d'autres kiffeurs et des gens avec qui vous vous êtes engrainés, saucés pour faire du son? Est-ce que c'est arrivé assez rapidement de passage d'auditeur à envie de vouloir en être, quoi?
Ouais, c'est totalement comme ça que ça s'est passé, un peu comme dans tous les quartiers. De toute façon, on avait un petit groupe de potes qui kiffaient la musique. Puis on est passé de kiffeur à jeune rappeur. Tu vois, à 13 ans à peu près, 13-14 ans, on a passé le cap. Comme je disais, matrixé par Ideal J, La Mafia, Mobb Deep, tout ça. Et donc du coup, à 13-14 ans, on était un petit groupe, dont Red Nose.
Ok.
Tu vois, que j'ai connu à cette époque-là. Et on s'est pas lâché derrière, tu vois. Mais c'était ça, le petit groupe. Ouais. On était 4-5 à kiffer le son et en faire dans une cave.
Et ce groupe, il avait un nom? Vous avez des traces discographiques ou c'est resté l'état de...
C'est resté à l'état de...
D'embryon.
D'embryon, ouais.
Ouais, ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a fait passer, toi, du rap au fait d'être derrière des machines. Ça a été quoi ton cheminement ?
Ça a été un long cheminement. Je suis passé par des chemins de traverse, mais incroyable. En fait, je kiffais le rap à mort et tout, mais mes premières armes dans la musique professionnelle, je les ai faites dans la dancehall.
Ok.
Donc, la musique caribéenne, tout ça.
Qui est très importante aussi dans le 94, où, où ça a été un centre névralgique, j'ai envie de dire, en Île-de-France et en France pour ce style-là. Quoi.
Je pense que j'y étais peut-être pas pour rien. Vu le nombre d'années où j'ai enregistré des gens de ce style et fait aussi, parce que j'ai un gros amour pour la dancehall, c'est une dernière, tu vois. Et j'ai fait presque une petite année, peut-être 10 ans quasiment dans la dancehall.
D'accord.
Et après, derrière, parce qu'en fait, j'ai fait un son, ça a fonctionné tout de suite. Donc, du coup, j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir. Et comme je kiffais la musicalité, c'était une période où encore dans le rap, on était dans les prémices de la mélodie. Mm-hmm. On n'était pas encore vraiment dans les gens qui chantent et tout. Ça me permettait d'avoir une grosse musicalité avec des gens qui chantent et tout machin. Et ça me plaisait bien. Tu vois, donc j'ai fait 10 ans jusqu'à ouvrir justement le label Abyss en 2011. Et là où on s'est associé avec Red Nose et qu'on a fait rap.
J'aimerais alors du coup qu'on parle de cette décennie, donc dans les années 2000, du coup, j'imagine, vu ce que tu nous racontais en termes de temporalité. Où tu as été dans la dancehall, ça a été quoi ton cheminement pour passer justement du rap au dancehall? Est-ce que ça a été des rencontres? Est-ce que c'est dans... Je sais pas, le matériel que tu as commencé aussi, dans lequel tu as commencé à investir. Comment ça se fait que tu es passé du rap tout de suite au dancehall dans les années 2000?
C'était par opportunisme, vraiment. Ça veut dire que moi, je viens de ma petite banlieue du 9-4, plus Trévis, il n'y avait pas beaucoup de grands, tout ça, machin. Donc moi, de base, je voulais avoir des prods. Hein. C'était en tant que rappeur, j'ai commencé par les prods pour avoir des prods pour nous, tu vois. Donc, et j'aimais la musicalité de toute façon, donc... J'avais un collègue qui faisait de la dancehall, donc ça veut dire que tout le temps, quand j'allais chez lui, il en faisait, il écoutait que ça, Capleton, Sizzla, tout ça.
Les grands monsieur de ce genre musical.
Exactement, donc moi j'aimais bien, et un jour je me suis dit, bon bah je vais tester de faire une instru dancehall, ce qu'on appelle un rhythm. Et donc j'en ai fait une, comme ça pour le fun, j'ai fait écouter à mon collègue, et mon collègue il m'a dit, mais t'es un fou, ça tue, t'es trop fort frère, attends vas-y, j'ai un collègue, je vais l'envoyer. Il a envoyé un collègue là-bas aux Antilles, son collègue aux Antilles, il a pété, pareil, il a envoyé un autre collègue dans la Caraïbe anglaise, c'est le téléphone antillais, c'est comme le téléphone arabe, mais ça va plus loin, tu vois, ça va très vite. Et donc du coup, derrière, il y a un monsieur, un Saint-Lucien qui a posé dessus, et ça a bien pris, et donc du coup, ça a fait du bruit, les gens sont venus me voir de par eux-mêmes, donc... Voilà, par opportunisme. Après, derrière, j'ai attrapé le wagon et j'y suis allé et j'ai kiffé.
Tu travaillais sur quoi à l'époque, à tes tout débuts de producteur?
Bah, comme tout le monde, hein, avec une petite carte son et un micro à 200 balles, tu sais, les T-Bone, tout ça, là, tu vois, les micros du ghetto. Et ça a passé très bien, tu vois. J'ai fait mes premières armes comme ça et je suis resté près de... Bah, toute cette période, quasiment, avec du matos presque archaïque, mais en fait, c'est... J'avais compris, moi, que le matos ne faisait pas le son et que c'était mon travail qui allait faire le son, plus que le matériel.
C'était du software, du coup? Tu n'avais pas du tout...
Ah, j'avais une carte son, un micro, une petite paire d'enceintes Fostex à 300 balles, tu vois. Je n'avais pas plus de 1000 euros de matériel. J'avais fait une cabine dans ma chambre, tout ça. C'était cool, tu vois. Mais ça fonctionnait bien en système D, on va dire, tu vois.
OK. Et du coup, parce que les années 2000, c'est les années de la dématérialisation, tu vois, c'est l'arrivée des logiciels, etc. Est-ce que c'était quoi? T'avais quand même une boîte à rythme, t'avais une MPC, c'était logiciel.
Moi, j'étais un des premiers à, justement, au début, c'était un peu compliqué parce que tout le monde me disait, t'as pas d'MPC, tu sonnes pas, c'est sûr.
Ah, dans les années 2000, ouais, il y avait vraiment ce mythe de
t'avais
la MPC.
T'avais pas une MPC, exactement. Une SP-1200, un truc comme ça, bah, t'étais pas vu comme un professionnel, en fait, tu vois. J'ai dû m'imposer au début à dire, mais les gars, quand même, écoutez, tu vois, genre, avant de me dire que je sonne pas, tu vois. C'était dans cette période-là, tu vois. Donc voilà, je sais plus vraiment, je me suis perdu un peu dans mon film.
Non, t'inquiète, juste, je te demandais justement sur quoi tu avais commencé à bosser.
J'étais que software.
Okay.
Et j'étais pas sample aussi, tu vois, genre, j'étais les premiers à vouloir tout faire moi-même. Je voulais pas sampler, je voulais pas. Voilà, mais tout en software.
Du coup, est-ce qu'il y a un instru dans le rap ou dans le dancehall qui a été un peu une inspiration pour toi, un truc où tu t'es dit, si je fais du son, j'aimerais bien que ça sonne comme ça, tu vois?
Alors, c'est plus des producteurs qu'une instru, okay. Ça veut dire?
Bien sûr.
Genre, comme je te disais, Dr. Dre, ouais, à chaque fois que, tu sais, Dr. Dre, on l'attendait comme une série, en fait, tu vois, comme Game of Thrones. Dès qu'il y avait un « Ah, t'as entendu le dernier Dr. Dre », on l'écoutait, ah, comment il sonne.
Ouais. Ah ouais. Surtout bien comment bien. Il s'est réinventé justement entre la fin des années 90, le début des années 2000 avec le label Aftermath. Tu parlais de l'album 2001.
Et puis même,
2001.
Il sonnait. Il sonnait de fou.
Bien sûr.
Ça veut dire qu'il y avait une patte, il y avait une vraie couleur quand on écoutait. On disait, ah ouais, c'est quelque chose, tu vois. Donc, Dre, pour la partie hip-hop. Et pour la partie dancehall, je dirais, c'est un producteur qui s'appelle Stéphane McGregor. Stéphane McGregor, quand il arrive avec des rythmiques un peu particulières, à moitié anglaise, jamaïcaine, tu vois ce que je veux dire. Il arrive avec un truc un peu grime et tout, tu vois. Ouais. Et ça m'avait mis une grosse baffe à l'époque, tu vois. Genre, j'avais kiffé l'originalité rythmique, tu vois. Voilà.
Alors,
c'est deux producteurs.
Merci pour ces précisions. Du coup, moi, justement, quand j'ai commencé à reparcourir ta discographie, et puis évidemment celle avec Red Nose, c'est vrai que moi, le premier, et ça va dans le sens de ce que tu racontais sur tes liens avec le dancehall, le premier crédit que j'ai réussi à trouver vraiment identifié, c'est pour Sir Samuel en 2012. Mais j'imagine qu'avant ça, en fait, il y a plein de choses qui sont sorties et qui sont peut-être plus difficiles à dénicher, en fait, c'est ça?
Ouais, peut-être. Après, c'était surtout Yann Dacta tout seul. Après, j'ai fait beaucoup de dancehall et tout, tu vois. Donc,
parmi les noms pour lesquels tu as produit, justement.
J'ai travaillé beaucoup avec X-Man à l'époque, par exemple. Tu vois, j'ai fait les deux albums d'X-Man en tant qu'ingé son.
Okay.
Tu vois. Après, j'avais pas mal composé quand même. Tu vois, j'avais fait, je sais pas, 5-6 titres sur les deux albums. Après, ça fait quelques années, frérot, tu vois, les titres, je m'en rappelle plus. Après, Madinela Kuduro, qui avait cartonné à l'époque, tu vois, c'était moi qui ai fait cette prod-là, tu vois. Donc, c'était en 2009. Je crois qu'il y a 12 millions de vues sur Internet. Un truc
c'est
comme
pas
ça,
rien.
Pour un titre dancehall, c'est remarquable, surtout pour l'époque. Après, j'avais participé, par exemple, Colonel Réel. Celui, c'était moi qui avais été l'ingé son. C'était enregistré dans ma chambre.
OK.
Non, il y avait des crédits avant. On se battait déjà en 2006.
Ah ouais. Non, tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'essaye d'aller le plus loin possible dans mes recherches de crédits, tu vois. Et c'est vrai que je n'ai pas réussi à trouver avant ça. Et c'est intéressant que tu le précises.
Et avant, je pense qu'il y avait... Avant ça, il y a eu des placements pour, par exemple, Gros Dash sur l'album Enfant Soldat. Je ne sais plus c'était combien, quelle année ça.
Ah, bonne question.
L'album, c'était le moment où j'ai fait la transition avec Abby, justement, où je suis passé de la dancehall à beaucoup plus d'hip-hop. Et sur cet album-là, du coup, Gros Dash m'avait contacté pour faire des instrus de dancehall parce que j'avais moi pas de dancehall.
Ouais.
Et une couleur hip-hop, donc ça permettait d'allier un peu les deux. Et voilà, j'avais fait deux ou trois sons sur cet album-là. Donc, ouais, non. Il y avait des crédits avant 2009.
Et ben c'est très bien que tu le précises parce que c'est pas facile. J'ai
ouais, trouvé, après, je trouve, sur Internet. Une période où l'Internet était encore au second plan.
Exactement.
On était très,
Donc c'est bien, je trouve, redonner du crédit, c'est le cas de le dire, tu vois, justement, à des choses que tu as pu faire avant qui ne sont pas forcément identifiées aujourd'hui. Donc c'est
après,
cool.
Même moi, je ne m'en rappelle plus.
Ben voilà, si vous arrivez à retrouver des trucs, dites-le nous. Comme ça, on pourra compléter la fiche Genius, notamment, par exemple, sur Yann Dacta sur Internet. Tu le disais justement, donc tu as eu ce parcours en solo dans le dancehall à ton nom. Et en même temps, Renaud, c'est quelqu'un que tu connais depuis très longtemps. À quel moment, en fait, vous entre guillemets, retrouvez, ça se trouve, vous n'êtes jamais vraiment perdu, mais à quel moment il y a eu cette envie, cette idée de continuer à faire un parcours ensemble, finalement?
En fait, on ne s'est jamais perdu. On a toujours été amis. Donc, depuis cette époque du groupe et tout, machin, même avant, on était déjà amis. Et donc, il se trouve que moi, je faisais ma petite carrière dans la dancehall et tout, machin. Et donc, ça veut dire que Red, il passait souvent à la maison, on regardait les sessions. Et il a été toujours piqué par la musique. Donc, un jour, il est venu me voir et m'a dit « Ouais, Yann, ça te dit, on y va ? Allez, vas-y, viens, on y va. » Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Jamais perdu de vue, en fait.
Et lui, il était déjà beatmaker à cette époque-là ?
Non, à ce moment-là, il n'était pas beatmaker. À ce moment-là, il était... Il était plus rappeur encore, tu vois, mais il était passionné par la musique et c'est venu après, genre 2-3 ans après d'avoir commencé ça, le label Abyss que Red a commencé à composer. Le premier titre que Red a composé, c'est le titre de Sadek, Dans la Lune.
En premier crédit, vraiment, où vous êtes vraiment à la production de beaucoup de titres, j'ai retrouvé l'album No Limit de TLF, qui sort en 2016. Et là, justement, vous avez beaucoup de productions sur ce disque-là. Quelqu'un du 94 encore. Justement, est-ce que c'est cette proximité géographique? Comment vous êtes retrouvé à travailler sur ce disque?
Ouais, proximité géographique et proximité de contact. On va dire qu'on avait des amis en commun et on nous a branchés en tant que mecs qui font du son dans 9-4. Et du coup, c'est bien passé et on a fait cet album-là, sur lequel on a beaucoup travaillé, tu vois, sur l'album No Limits. Il y avait des beaux titres d'ailleurs, hein. Il y avait des sacrés titres, dont Rêve et Cauchemar, par exemple. Tout ça, il y avait vraiment des beaux titres. Grand Frère, il y avait des titres sérieux sur cet album.
Justement, il y a un truc intéressant que tu
Mourir
disais.
Mourir ce soir aussi, comment puis-je l'oublier?
Mourir ce soir.
Les prémices de la cloud.
Exactement. Et justement, il y a un truc intéressant que tu me disais, c'est que tu avais cette musicalité qui a fait que d'ailleurs que tu as été vers le dancehall d'abord. Et c'est vrai que sur ce titre-là, au vu de ce qu'est le rap français à cette époque, il détonne, c'est parce que justement, il est très musical, presque pop par moment. Tu vois, en tout cas, dans la manière de faire sonner les instruments, dans le grain, comment ça sonne. Est-ce que toi, tu avais déjà une idée, une envie précise de comment tu voulais faire sonner tes productions? Est-ce que c'est aussi des envies de d'Iqbal, de TLF, de te dire, voilà, j'ai envie d'aller vers ces directions-là, de vous dire, j'aimerais envie, voilà.
Non, pour le coup, c'était... moi, j'aime bien toucher un peu à tout. J'aime pas être stéréotypé, faire la même chose. Mm-hmm. Et donc, du coup, non, là, pour le coup, c'est Ika qui a kiffé la prod, tu vois. Mais c'était pas sur une demande spéciale. Okay. En fait, on composait toujours beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une quantité de prod, tu connais, dans le catalogue.
Bien sûr.
Par contre, dès qu'il a entendu celle-là, c'est vrai qu'elle était très typée, ça sonnait rien à voir avec ce qu'il y avait.
Tu parles de laquelle en particulier, là?
Mourir ce soir. Et du coup, dès qu'il a entendu la prod, elle n'était même pas finie. Il m'a dit « Ah non, c'est ça, frère, ça, c'est une dinguerie, vas-y, direct. » Donc, faut lui rendre ça. Il a bien senti la prod, en fait. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident. Il y avait beaucoup de gens qui n'auraient pas posé sur des prods lentes comme ça et tout. Ce n'était pas évident pour l'époque.
De fou.
Mais ce n'était pas une commande. C'est nous, on a fait sur notre envie.
Vous aviez déjà ça dans le catalogue, dans la besace.
Exactement.
Rien à foutre de ce qui peut m'arriver. Même si je dois mourir ce soir, de toute façon je suis grillé. Ma réalité, mon pire cauchemar.
Il y a un morceau aussi, je trouve, qui est sur ce disque, qui fait le lien avec ton passé dans le dancehall. Il y a un morceau qui s'appelle Claque des dents, West Indies Remix.
Oh ouais, ouais.
Voilà, tu vois.
Et avec Soprano, tout ça.
Exactement. Et je trouve ça intéressant, justement, ce morceau, parce que au vu de ce que tu as raconté, ça, je trouve que ça fait un trait d'union assez idéal, en fait, justement, ton passage de la dancehall vers du rap, quoi.
Ouais, mais Ika, il le savait, ça.
Ouais.
C'est pour ça qu'il m'a tiré dans ma zone de confort de l'époque, tu vois.
Ouais.
C'est exactement ça. Ouais, ça fait pile poil le lien, parce que c'était pile poil l'époque et que j'avais toujours cette couleur qui était intéressante pour le rap français. On va dire que c'était une autre couleur que les gens ils connaissaient moins, en fait, tu vois.
Tout à l'heure, on citait un nom qui est celui de Sadek, quelqu'un avec qui on va en parler. Vous avez beaucoup travaillé. Et donc, justement, il y a cet album qui sort également en 2016 qui s'appelle Nick le Casino, sur lequel vous avez également beaucoup de titres. Comment s'est fait la rencontre avec Sadek et qu'est-ce que vous sentiez qu'il avait qu'il pouvait chercher musicalement que vous pouviez lui apporter justement à ce moment-là éventuellement?
Alors déjà, il y a deux questions, donc je vais répondre dans l'ordre.
Je t'en pose la première question, comment vous rencontrez Sadek?
Je vais répondre dans l'ordre, t'inquiète, j'ai retenu. Alors, la rencontre, elle s'est faite dans un coiffeur à Champigny-sur-Marne.
Ok.
Ouais, BG à coiffure, big up. Et du coup, c'est Red, il est tombé sur lui là-bas, et il a dit « Ouais, vas-y frérot, on fait du son, on a fait ça ». Il a dit, ah ouais, lourd. Bon, on a parlé justement de Mourir ce soir et tout. Mm-hmm. On a fait une petite rencontre et on a tellement eu un bon feeling qu'on a fait 3 albums. Voilà.
Voilà, le contact humain, c'est
aussi simple que ça, tu vois. Genre d'un coiffeur au studio, quoi.
Et donc, du coup, deuxième question, voilà, c'est qu'est-ce que vous sentiez que lui, dont il avait envie, dont il sentait qu'il avait besoin, peut-être, tu vois, pour ses albums? Il avait déjà sorti bien 2 ou 3 disques avant, hein, de mémoire.
À vrai dire, on ne s'est pas posé tout ça de questions.
Okay.
Genre, on s'est rencontrés, on a kiffé l'ambiance, on a fait un son, on a dit « putain, il est bien ce son ». On en a fait un deuxième, on en a fait un troisième, un quatrième, et voilà, ainsi de suite. Je ne pense pas qu'on s'est posé tout ça de questions, tu vois.
C'était très spontané, naturel.
C'était vraiment comme un feat, en fait. On a une bonne énergie des deux côtés. Je pense que ça nous a poussé tous les trois vers l'avant, en fait. Voilà, il n'y avait pas de, de réflexion particulière. C'était vraiment le fait de faire. Voilà, on faisait.
Vos productions sur ce disque, elles ont une couleur très trap, parfois très aérienne, parfois plus nerveuse. Voilà, c'est parce que c'était votre mood du moment, en fait, tout simplement, avec Red Nose, et c'était des propositions qui collaient avec ce dont tu avais envie de faire, en fait, c'est ça ?
C'est ça. Okay. C'est, on faisait, et il arrivait, ah, cette prod-là, elle est lourde, je prends, clac, ah, celle-là aussi, clac, hop. Tu vois, en fait, on était très productifs, tu vois, ça veut dire que moi, par exemple, je me fixais un son par jour, je faisais minimum une prod par jour. Red a une période aussi, donc ça veut dire que vite, on avait un grand choix de catalogue à pouvoir proposer aux artistes avec des prods très différentes. Et donc, du coup, ça a glissé, en fait, ça glissait. C'était même pas de la réflexion, en fait, en vrai. C'était vraiment de l'amusement, du kiff. De toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe le mieux.
Tu parlais de Dr. Dre, du fait qu'il avait une patte. Mm-hmm. À ce moment-là, on est au milieu des années 2010. Toi, tu as aussi 15 ans de musique dans les jambes, en tout cas une dizaine d'années. Est-ce que tu disais qu'il n'y avait pas nécessairement de réflexion dans ce que vous proposiez aux artistes, mais est-ce que toi, tu avais une réflexion sur comment est-ce que je peux rendre ma musique singulière, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'elle sonne comme moi, j'ai envie qu'elle sonne, et de me démarquer, quoi.
Oui, bien sûr. Ça veut dire que ça, c'est le travail de tous les jours. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je faisais une prod par jour. Et à chaque fois, cette prod-là, le but, c'est de faire mieux qu'hier. Donc, ça veut dire qu'on va plus loin, on teste d'autres choses. Puis quand tu fais beaucoup, au bout d'un moment, tu vas naturellement vers des choses, tu vois, différentes. Et en fait, c'était vraiment faire, tu vois. J'ai toujours eu cet état d'esprit à vouloir faire, à vouloir créer. Et je pense que la qualité se dégage au fur et à mesure. C'est une réflexion de tous les jours, en fait, tu vois. Ah, je veux sonner. Ah, ça sonne moins bien que c'est d'après dire. Ah, non, c'est pas possible. On va retravailler, on va refaire mieux et demain, ça sera mieux. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est à force de faire. J'ai pas eu spécialement une réflexion de me dire, ouais, il faut que je ramène de l'accordéon. C'est juste à force de faire, on comprend des choses et au fur et à mesure, on avance.
Ouais, c'est comment sur des accidents, des effets que tu peux aller chercher, tu peux créer quelque chose de singulier. Je sais que Red Nose, on en a un peu parlé en off, lui, il disait qu'il était beaucoup inspiré des musiques de films. Et sur un disque comme celui-là, moi, il y a une production en particulier, je trouve qu'elle résonne avec ce qui va faire suite après dans votre carrière. C'est un morceau comme C'est trop, avec Leto et Nino. C'est un beat trap très espacé, mais une instrumentation qui est très chargée, un peu vertigineuse comme ça, qui me fait presque justement penser un peu à de la musique de film. Est-ce que ce côté un peu sound design, c'est aussi quelque chose que tu avais déjà un peu conscientisé ou tu disais, j'aimerais bien commencer à développer quelque chose comme ça, quoi ?
Oui et non. Après, je pense que ça, c'est des influences plus, tu vois. J'ai beaucoup aimé la musique à Moroder, par exemple, tu vois, genre tout ce qui était Midnight Express.
Bien sûr, Giorgio Moroder, grand compositeur.
Et je pense que c'est un peu dans cette lignée-là, tu vois, avec toujours notre patty pop et tout, tu vois, mais d'inspiration un peu, tu vois, de musique de film, justement, tu vois. Puis un côté assez pesant, tu vois, surtout sur ces trop, tu vois, pour le coup.
De ouf.
Donc, ouais, non, c'est de là, ouais. T'as peut-être bien saisi le truc avec le côté film, tu vois. Et souvent, c'est vrai que surtout Red est très... C'est un cinéphile incroyable. Donc, ça veut dire que souvent, il me citait des musiques de films et tout, tu vois. Moi, je suis dans ma grotte. Moi, je travaille, je fais du son, les films et tout. T'as capté. Voilà. Donc, mais on a été très... Moi, Moroder beaucoup. Okay. J'aime beaucoup.
On parlait justement de Red. C'est quoi un peu votre dynamique, votre équilibre ? C'est quoi les points forts de l'un ? Tu vois, par exemple, c'est quoi, d'après toi, les points forts de Red sur lesquels, justement, il arrive à compenser des trucs sur lesquels t'es moins, entre guillemets, vif, tu vois ? Et inversement, des trucs que toi, tu maîtrises mieux et qui fait l'équilibre de votre duo, tu vois ?
Ouais, bien sûr. Bien sûr, on a un fort équilibre et je pense que c'est pour ça que ça tient bien toutes ces années. Bon, moi, j'ai tendance à être un peu rêveur, à être un peu... on va dire créatif et à partir un peu dans tous les sens.
Ouais.
Et Red, il a tendance à être un petit peu garde-fou et très, très droit dans la DA. Il a une DA très ouverte, en fait, et très... Là où je suis, moi, un peu jazz sur les bords, tu vois.
Okay.
Je vais avoir tendance à être jazzman, à mettre des trucs bizarres, ou que les compositeurs vont kiffer, le reste de la population, ils vont dire « c'est bizarre, ça !» Tu vois,
voilà, c'est pas ton côté aussi ingé son, justement, qui est très attentif aux moindres détails ?
Sûrement, ouais. Tu vois. Puis aussi de l'originalité, tu vois. Comme je te dis, j'aime beaucoup l'originalité, moi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, les gens, ils vont pas aimer, mais moi, ils vont me plaire parce qu'ils sont super originaux, par exemple, tu vois. Originaux. Désolé, Baudelaire.
T'inquiète.
Donc voilà, originaux.
Sur ce disque, justement, cette première collaboration avec Sadek, ce serait quoi ta production préférée?
Moi, j'avais un gros coup de cœur sur Sans Parler.
Ok.
Ouais. Qui n'a pas fait plus de bruit que ça, mais Sans Parler, je l'ai suriné, tu vois, je l'ai réécouté, je l'écoutais tout le temps. C'est un titre que j'adore, moi, Sans Parler. Ouais, Sans Parler.
On se comprend sans parler. On se comprend sans parler. On a grandi sans câlin. Un jour, on quittera le barrio.
2016, c'est aussi un moment un peu charnière. C'est une année charnière pour vous, parce qu'il y a, y a évidemment cet album. Mais il y a aussi un morceau qui sort sur un album qui s'appelle Dans la légende. Ce morceau, c'est Jusqu'au dernier gramme, qui clôt cet album de PNL. Comment est né ce morceau? Comment s'est fait la connexion avec, avec PNL déjà? Et comment est né ce morceau?
Alors, le morceau, en fait, comme tous, hein, comme tous les morceaux qu'on faisait, on composait de notre côté. Après, on n'a pas vraiment ciblé. On était à l'époque déjà, comme tu disais, on avait fait les Mourir ce soir. Donc, on était déjà un peu dans ce mood-là de faire de la cloud musique.
Vois. Quelque chose de très aérien, très espacé.
Exactement. Ouais. Et donc, naturellement, on a fait cette prod. Et de base, la prod devait être pour DTF, proximité géographique, 94, toujours. Et du coup, on a appris que c'est sorti sur... Enfin, on a appris deux semaines avant que ça sorte que c'était sur l'album de PNL, dans la légende. On savait, on pensait que c'était pour DTF,
bien sûr.
On n'était toujours pas au courant. Et donc, voilà comment ça s'est fait un peu... Un peu coup de chance, coup de chance oui et non, étant donné que la prod était bien, mais on va dire que c'est. On était pas au courant que ça allait faire ça. Voilà.
Et la guerre, on l'a fait, on la refera, pourquoi donc épiloguer? Pas de paix, pas de paix, pas de paix, dans le contrat, la haine pour copiloter. Il s'agit de ne plus jouer au con, dans le regard, pareil qu'on y voit une âme. Chez moi, on dit qu'au fond du trou, quoi. J'ai un homme, il ressort avec une arme.
Sur cette production, je trouve qu'on est sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ton côté justement créatif et rêveur. C'est-à-dire que là, ça fourmille de détails. Tu as cette guitare, tu as ce son qu'une fois dans un autre contenu, vous m'aviez défini comme un son de baleine ou quelque chose dans le genre. Tu vois, il y a quelque chose de très onirique dans cette production-là. Est-ce que ce n'est pas gratifiant quand on a une production comme ça qui ne sonne pas comme ce que sonne tu vois, le reste du rap américain comme français à ce moment-là? Ce n'est pas gratifiant de se dire qu'il y a des artistes qui captent et qui vont saisir ce délire dans lequel vous allez, tu vois, te dire « Ah cool, tu vois, ça... y a des gens qui peuvent partager ça et qui, en plus, ont envie d'interpréter dessus, quoi. »
Non, c'est grave gratifiant, mais en fait, en vrai, on a la tête dans le guidon. Ça ne
rend même pas compte.
Tu vois, ça veut dire c'est-à-dire que nous, la prod, elle est bien. Viens, on fait une autre, tu vois. Voilà, c'est tout simplement... moi, je me rends même pas spécialement compte que j'influence des gens ou quoi. Moi, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire de la musique, ce que je fais bien, et puis c'est tout, tu vois. Après, ça me fait toujours plaisir, c'est toujours gratifiant quand tu vois les gens, tu vois, te dire « Ah ouais, c'est une prod qui m'a grave poussé à le faire », tu vois. Ça fait plaisir de motiver des gens, mais je me rends pas spécialement compte.
Ok.
Voilà.
Il y a ce morceau qui sort sur l'album, mais il y a aussi après une version longue, très longue, qui sort en version clippée. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez du coup retravaillé en musique à l'image?
Non.
Vous n'avez pas du tout retravaillé du coup sur le truc?
Enfin, si, si, mais pas en musique à l'image. On a tout fait comme ça.
Ok, d'accord. Donc sans avoir les images, vous avez juste fait une version longue, quoi, c'est ça?
C'est ça.
Ok.
Avec un time code. On nous a dit faut autant. On a dit ok.
Est-ce que c'est contraignant ou est-ce que c'est stimulant justement ce genre de...
C'est stimulo-contraignant.
J'adore cette expression. C'est... Ok, stimulo-contraignant. Hein.
C'est exactement ça. Donc c'est-à-dire d'un côté ça stimule en se disant mais comment je vais faire et tout, faut que je trouve... Parce qu'en plus le challenge est là, on sait que bon, c'est un beau challenge donc faut tuer ça.
Ouais.
Mais t'es dans le vide quoi, tu vois. Donc après ouais, voilà, on a trouvé des solutions pour pouvoir faire. On a collé des anciens clips, tout ça. Jusqu'à... C'est comme ça qu'on a eu nos images, c'était les anciens clips. Donc, on a composé là-dessus. Au final, ça fait ça.
Et ça a plutôt bien marché au vu du résultat. Donc, bravo pour ça.
Merci.
Donc là, on était en 2016. On arrive en 2017. De nouveau Sadek, qui sort Vulgaire, Violent, ravi d'être là, pardon. VVRDL.
Exactement.
Et il y a un morceau qui annonce la sortie de cet album, qui est Petit Prince. Qui est un morceau, je trouve, aussi marquant, justement, quand il sort, et notamment pour sa production. Est-ce que là, c'est quand vous avancez justement avec Sadek à ce moment-là, artistiquement, est-ce que il y a plus d'échanges, c'est-à-dire que lui, il vous donne des notes d'intention, vous êtes un peu dans la réalisation, lui disant ça pourrait être intéressant que tu ailles sur ce genre d'instrumental-là, ou est-ce que c'est pareil, juste quelque chose que vous aviez dans votre besace et finalement ça reste cette manière de travailler, quoi.
Bah, de mémoire, parce que ça commence à dater un petit peu, de mémoire c'était le deuxième, toujours, tu vois, ouais. Je crois même que ce son-là, on l'a fait au studio directement, donc la compo a été faite sur place. On a composé et c'était même pas fini, je crois. En plus, c'était un moment où on a charbonné comme des oufs. Je me rappelle très bien, Dexa, il s'était endormi. Il s'était endormi dans l'autre pièce. Il avait fini la prod et quand il a écouté la prod, il a dit ah ouais, dinguerie. Et il a fait une esquisse, tu vois. Il s'était endormi et moi, j'avais retravaillé les voix. Et derrière, il a écouté, il a dit ah ouais, ça tue, c'est bon, on garde comme ça, en fait. Donc voilà, la pause, c'était la top line pour pas s'oublier, entre guillemets.
Ouais.
En fait, on a gardé. C'était plus une anecdote qu'une pensée de production. J'étais très freestyle, moi. Je suis très freestyle, t'as capté. Genre, ça arrive, viens, on y va. Ok, on y va. Hop, hop, ça a donné ça. Voilà, c'était un peu ça. Ça a toujours été un peu ça, moi, de toute façon. C'est mon côté jamaïcain, tu vois. Genre, un son, c'est un jour, tu vois. Genre, voilà, c'est tout.
Le côté redeem, justement, faut que ça aille vite.
Exactement.
Petit prince, ton mouton est prisonnier des ronces. J'ai tout observé du haut de ma branche. Aucune délivrance, privé d'oxygène et sans réponse. Il ne vit que pour être découpé en tranches. Piégé dans les halls, moins de haut que de bas. Et ça n'en doute pas, mais j'ai vu tout ça depuis l'époque de Baptiste Touta. Je me demande comment, moi maman, je me demande plus pourquoi. On se voit peu même croire, pas que mon cœur ne bat plus pour toi.
Encore une fois, moi, une production comme ça, ce que je trouve assez remarquable, c'est comment ça fourmille aussi de plein de petits détails. Le jeu sur les hâtes, tu vois. On a une rythmique qui est assez rebondi, mais en plus, tu as une autre information rythmique, tu vois, donnée par les hâtes, comment vous faites sonner les hâtes, etc. Donc, je trouve que comment elles sonnent, encore une fois, tu vois, on parlait de singularité, il y a un truc singulier qui s'en dégage, quoi.
Bah ça, c'est parce que... Bah, en fait, c'est pas parce qu'on met pas longtemps à le faire qu'on n'a pas spécialement travaillé. C'est juste qu'on est efficace, qu'on a fait beaucoup de sons avant pour pouvoir arriver à cette vitesse. Et
c'est la discipline accumulée, quoi.
Exactement, pour pas perdre, justement, de but d'aller le plus loin possible. Parce que souvent, on peut se perdre, tu sais. C'est pas parce que j'ai déjà travaillé des instrus 8, 12, 15 heures et l'instru, tu l'écoutes au final, elle est claquée, t'as capté. Donc, c'est plus tu fais, plus que tu arrives à avoir un niveau. Et moi, c'est ma philosophie, tu vois. Donc, mais c'est pas pour ça que je travaille pas et qu'on essaye pas d'aller le plus loin possible dans nos productions, tu vois. Tous ces détails et tout, tu vois. Alors, au final, ça va vite, en fait, en vrai, quand t'es habitué, tu vois. C'est quand t'es pas habitué que ça va pas vite.
Tu le disais tout à l'heure, là, peut-être encore plus qu'avant, dis-moi si je me trompe, vous travaillez vraiment en studio, justement, à la réalisation, la production de titres avec Sadek. Est-ce qu'il y a un morceau, un peu quoi, comme pour l'album tout à l'heure, est-ce qu'il y a un morceau en particulier sur cet album-là dont tu tires une satisfaction sur l'envie, les idées que vous vouliez développer avec lui?
Ouais. Moi, j'ai un gros coup de cœur sur, tu vas comprendre pourquoi, sur La Rue Séparo. Parce que justement, transition hip-hop dancehall.
Tout à fait.
Tu vois, c'était une grosse prod dancehall. En fait, en vrai, quand t'écoutes bien,
tout à fait,
elle n'est pas hip-hop, la prod, elle est dancehall.
Il y a quelque chose de très caribéen dans comment elle tourne, la rythmique,
exactement. Et lui, il l'a pris très rap. Et du coup, je sais pas, je trouve que le côté street et caribéen entre les deux, je sais pas, ça donne un délire. J'aime beaucoup ce son.
La rue, c'est paro, je suis résigné. Les poumons, le cerveau carbonisé. C'est la merde, en effet. Ça pillave beaucoup pour oublier les faits. Bien lancer les dés, dégrave beaucoup ça aussi, je l'ai fait. Je peux pas nier les faits, de l'or au coude et le bout d'un pied.
Et donc tout à l'heure, tu parlais de Dans la Lune qui se retrouve justement sur cet album-là, en fait.
Qui est la première prod de Red.
Et je la trouve originale aussi, cette prod, parce que t'as cette espèce de son, on dirait un peu du steel drum qui bégaye un peu. T'as cette mélodie un peu orientale.
Steel drum qui bégaye, c'est pas mal ça.
Je sais pas, j'essaye de donner un mot.
Je vois l'idée.
Tu vois un mot, un son qui est un peu inidentifiable, quoi. Et il y a cette mélodie en plus un peu orientale, tu vois, au refrain. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'original. Vous avez un truc, souvent chez vous, sur les productions en tout cas, qui peuvent être justement les plus singulières et les plus marquantes, d'un truc très voyage, quoi. Il y a toujours une espèce de sonorité qui vient d'un endroit du bout du monde et tu n'arrives même pas à savoir d'où.
On est des petits fils de nomades, nous. Forcément, on a envie de voyager, tu vois ce que je veux dire. Et si on ne peut pas voyager, bon, on va voyager autrement, tu vois.
Voyager avec le son.
Exactement.
J'ai l'impression que je fais le tapin. Je suis là, je suis là, je suis là.
2018, un autre artiste avec lequel vous commencez à travailler, un artiste de Sevran, des AUZI. Et il me semble qu'avant que vous faisiez des prods pour lui, il enregistre chez vous. Il n'y a pas une histoire comme ça, non?
Bah, tout en même temps.
Tout en même temps, d'accord.
Ouais, c'est un peu tout en même temps. Bah, comme il vient enregistrer à la maison, bah, forcément, bah, on a travaillé ensemble. Donc, sur ce fameux Mexico.
Ouais, Mexico, tout à fait, qui sort en 2018, ouais.
Ouais, ouais. Donc, ouais, c'était une sacrée période, une période assez faste. Et ouais, non, c'est venu pareil, naturellement, en fait. Tu vois, comme il vient au studio, bonne entente, on s'entend bien. On a travaillé du son naturellement, en fait. Voilà, ça s'est fait naturellement.
Qu'est-ce qui vous a plu j'imagine, il y a l'humain, tu vois, tu le disais, vous vous entendez bien. Mais qu'est-ce qui vous a plu artistiquement chez lui aussi pour pouvoir, tu vois, travailler, développer des choses avec lui?
On a senti directement un côté réel et très spontané, en fait, chez DA. Tu vois, c'est quelqu'un de vrai de vrai.
Voilà.
Voilà. Donc voilà, on a senti quelque chose de très spontané et très original, tu vois. Même sur un titre comme Hier, tu vois, sur cet album-là, grosse musicalité pour l'époque et tout, tu vois, genre, c'était très original, tu vois.
Avec une guitare électrique, par exemple. Si
exactement,
etc.
Ouais, ouais. C'était un titre, j'aime beaucoup ce titre-là.
J'ai tout donné, mais je dois faire encore. Il me dit qu'il m'aime, mais ça fait longtemps. Tu vois, je l'ai donné, j'en ai plus. Souffrir, je veux plus. Souffrir, je peux plus. Je sais qu'ils sont faux, mais je suis têtu. Tout le monde t'aimait avant les tirs. Y'a que la mort qui est fidèle, j'ai même plus besoin de le dire. Avec la mort qui est fidèle, j'ai même plus besoin de le dire.
Donc Hier, pour toi, ce serait par exemple un morceau un peu notable justement de vos envies musicales sur cet album-là, quoi.
Ouais, ouais. Même le titre avec Nino, mine de rien.
Entre les murs.
Entre les murs, ouais. À cette époque-là, ça nous avait bien push-up, tu vois.
Ouais, et je trouve que ça préfigure presque un peu, on va en parler après, un son comme Blanca, tu vois, sur les sonorités.
Peut-être.
Tu vois, sur l'espèce de... mélodie un peu de cloche, de clochette un peu glitchée, un peu déformée, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc qui se rapproche un peu de ça, quoi. Voilà.
C'est les mêmes boulangers.
Exactement. Il y a un album en 2018 qui est étonnant, qui a surpris beaucoup de monde, qui est Johnny Janeiro de Sadek. Comment est venue cette idée de faire un album de rap avec que des rythmiques de Baile Funk?
Alors là, pour le coup, c'est clairement une DA donnée par Dexa.
Ok.
C'est là où il est arrivé, il nous a dit, les gars, je voudrais faire ça. Vous êtes chaud? T'es sûr?
Ouais.
Vous étiez ouais, sûr, faites-nous confiance, les gars. Ok, viens, on y va. T'es chaud, on te suit, nous, tu vois. Donc, on l'a fait. Ça a été très intense. On a fait l'album très rapidement, en fait, parce qu'en plus, à ce moment-là, Sadek était entre le Brésil et la France. Donc, ça veut dire que, quand il était en France,
il fallait y aller.
Ouais, ouais. Et voilà, c'est un album qu'on a fait avec l'envie, tu vois, et dont je suis fier, moi, tu vois. C'est un album quand même ultra original.
Ah, ça, c'est clair.
Tu vois. Et rien que pour ça, il mérite ses lettres de noblesse.
C'était quoi pour vous? J'ai peut-être un peu le... Moi, en réécoutant l'album, j'ai peut-être un début de réponse à ça, mais j'aimerais bien toi t'entendre sur le sujet. C'était quoi pour vous, justement, le plus gros défi sur le fait d'avoir ces rythmiques particulières de Baile Funk, tu vois, cette espèce de fil rouge qu'il vous a donné en tant que producteur pour que ça respecte votre cahier des charges, c'est-à-dire que ça sonne comme vous, que ça sonne original, que ça sonne singulier, quoi.
Après, je sais pas, je pense que venant de la dancehall, c'était pas spécialement un défi pour nous, tu vois, ça, sur ce truc-là, tu vois. C'était c'est un peu, il y a une genre de continuité, on va dire, même si...
C'est vrai que les rythmes de Baile Funk, il y a un côté un peu rythme aussi.
Tu vois, et donc... J'étais pas spécialement
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tu vois, oh, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, tu ouais. Vois. Le challenge était de franciser. Mm-hmm. Tu vois,
c'est intéressant ça. Ouais.
Le challenge était de franciser. C'est parce que si on faisait. On savait que si on proposait tu vois, un MC Ben Laden et qu'on faisait les mêmes sons que là-bas, tu vois, ça allait être compliqué pour la France. Il fallait quand même ramener une musicalité française. Donc le but était de. Le challenge, le gros challenge était de mélanger ça en fait. Mélanger la France et le Brésil, tu vois. C'est ce qu'on a essayé de faire.
Il y a un truc que je trouve.
Donc on avait des mélodies assez hip-hop françaises, tu vois, et justement, on a, je pense que. Et même c'était un but d'aller très dans le côté très français, tu vois, genre piano, tout ça, machin.
Ouais, clairement, un morceau comme Beb Beb, par exemple, c'est vraiment le piano arpégiateur qu'on retrouve dans la trap sur une rythmique by the funk, quoi.
Exactement,
voilà.
Mais c'était voulu. Ouais. C'était totalement voulu. C'était exactement ça le concept.
Sa mère, je suis encore mené, mais je veux le 4x4 Lamborghini. Tombé sous le charme d'une fille, sans me faire ensorceler. Je suis habitué comme Dossé, désaccordé comme Valentin. Les bobos s'en foutent de l'humanité, ils préfèrent sauver les lamentins.
Et un truc que je trouve intéressant sur le fait de singulariser, c'est que bah, ces rythmiques, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont très standardisées. Je veux dire, tu vois, il y a un schéma rythmique et il faut le respecter, quoi. C'est comment, en fait, d'un morceau à l'autre, vous n'avez pas les mêmes drums aussi. C'est-à-dire que il n'y a aucune rythmique qui sonne pareil, même si c'est le même motif rythmique, tu vois, il n'y a aucun beat qui sonne pareil, quoi. Donc c'est aussi une manière pour vous peut-être de...
Bah parce que là, on savait que, tu vois, il y avait tout un album et qu'il fallait diversifier, on avait un fil rouge et bon, il faut se débrouiller pour avoir des titres singuliers. Donc ouais, on ne va pas utiliser les mêmes caisses sur tous les sons, tu vois, genre c'était comment faire la même chose différemment, tu vois, c'était un challenge, c'était cool.
Même question que je t'ai posée pour d'autres.
Mais c'est vrai que la rythmique, elle bouge pas. Hein, tu vois, genre, funk brésilien, surtout à ce moment-là, il y avait moins de... Là, il y a beaucoup, ça s'est vachement développé, la funk, quand même, tu vois. Mais à ce moment-là, c'est la rythmique, c'était une rythmique, quoi, tu vois. Deux, tu vois.
Alors, même question que je t'ai posée pour d'autres albums avant. Ce serait quoi, un ou deux morceaux que, encore aujourd'hui, tu vois, tu retiens sur la direction, la réflexion musicale que vous avez eue sur cet album-là, quoi.
Bah déjà Beb Beb mine de rien parce que forcément et sinon je dirais Johnny de Janeiro
qui ouvre l'album en fait
ouais sacré prod de Red, j'avais kiffé son là moi et puis sacré écriture de Sadek.
Ils vont racheter Paris, les sicarios. Toute une jeunesse propulsée dans le crime. Comme les sous-bois au bordel de Rio. Y'a de moins en moins de postulants à l'usine. Y'a de la coca jusqu'en Chine. Des chrysanthèmes se déposent sur les hôtels. Des ex-barons de la ville. Parce qu'on est tous juste des êtres faits d'argile.
En fait, j'aime beaucoup ce projet, moi. Je sais pas pourquoi. Ce projet, je l'écoute encore en 2023, tu vois.
Bah, ça a du sens au vu de ce que je dis encore une fois. Au vu de ton parcours, tu vois, qui vient des musiques afro-caribéennes. On est en plein dans un style de musique afro-caribéenne aussi, tu vois, et avec ce mélange que vous avez voulu faire, quoi. Alors, parfois, il y a des moments sur l'album, je trouve que, pour moi, en tant qu'auditeur, ça va presque trop loin, tu sais, des morceaux comme Tetris, comme Somnambule, tu sais, de reprendre des espèces de ritournelles qu'on connaît tous en tant qu'enfant. Je me dis, à l'époque, en écoutant l'album, je me dis, ah, c'est peut-être un peu facile de reprendre ce genre de mélodie, ou peut-être pas forcément aussi, hein, je sais pas, mais voilà.
Ah, moi, j'ai grandi au bled, je savais même pas que le son, c'était Trois Petits Chats. On m'a fait découvrir. Mais c'est Trois Petits Chats, c'est le truc qu'on fait à l'école maternelle. Ah bon Je connais pas, moi, tu vois. Genre, je l'ai découvert plus tard, ça.
Okay.
Et je me suis dit, oh, le gamin, tu vois, j'étais pas au courant.
Ok.
Voilà. Donc, moi, je m'en étais même pas rendu compte, en fait, tu vois, en vrai. Tu vois, j'ai découvert plus tard. Et c'est plus tard, j'ai dit, ah ouais, t'es triste, j'avais. Tu vois,
ouais, bah ouais, normal.
T'es triste, j'avais. Et justement, j'ai trouvé l'idée intéressante, moi, en tant que producteur, quand tu m'as dit, ouais, c'était une idée d'Exa.
Ok.
Du coup, tu vois, j'aimerais bien faire un son Tetris et tout, machin. Ouais, bonne idée, du coup, parce que derrière, ça n'a pas été le seul et.
C'est pas faux.
Tu vois?
C'est pas faux.
La DA était intéressante. Et voilà.
Ok. On arrive sur l'année 2019. De nouveau, une collaboration avec PNL, un morceau qui s'appelle Blanca, je le citais tout à l'heure. Pareil, comment ça s'est fait ? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà dans votre besace ? Est-ce que là, comme vous aviez des liens déjà avec eux, C'est une collaboration. Comment s'est fait un morceau comme celui-là qui a été marquant aussi, qui a été clippé, voilà.
On l'avait déjà dans notre besace, en fait. Tu vois, pareil, on a proposé. Ils ont kiffé. Nous, au début, on savait même pas qu'ils avaient kiffé. Et puis, au final, je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un... La prod avait été recherchée sur Twitter. Ils avaient demandé qui a fait cette putain de prod et tout, machin.
Okay.
Donc, nous, on a découvert à ce moment-là.
Ok.
Sur une annonce Twitter.
Sur une annonce Twitter.
Tu connais, faudra pas déconner, c'est AD qui taquine. Coco joue pas le kéké, un comme caca. Un peu survolté, un dos louche comme Blanca. Sous Jamaïca, sera flou comme son cas.
Oui, ça me revient, c'est que. En plus, il y avait une histoire où cette prod-là, il y avait déjà un rappeur qui avait posé dessus, c'est ça?
Bah oui, parce que oui.
Eh ouais.
Parce que du coup, nous, on l'a appris sur Twitter.
D'accord. Alors, comment on fait dans ces situations-là? Comme vous êtes producteur, vous aviez déjà filé cette prod-là. Elle s'est finalement retrouvée chez quelqu'un d'autre. Donc, c'était Doniem, de mémoire. Mm-hmm. Comment on fait pour se sortir dépatouillé d'une situation comme ça, quoi?
Bah, en vrai, ça, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas trop en parler, mais...
Ok.
On va dire que...
Parce que Denis, vous avez travaillé avec lui ensuite aussi. Donc, vous avez continué à travailler avec lui.
Oui, oui, surtout avant. Après, on a continué un petit peu, mais il a arrêté pas longtemps derrière.
OK.
Oui, c'était un artiste avec qui on travaillait beaucoup. Mm-hmm. Donc, ça a été un peu compliqué dans le sens où nous, on était complètement... On ne savait pas, en fait.
Bien sûr, bah oui.
Donc, tout le monde s'est bien rendu compte que nous, on ne savait pas et que ce n'était pas à calculer, truc, machin. Donc, chacun a discuté de son côté entre eux et ils sont arrivés à... On est arrivé à un terrain d'entente.
OK. Et donc, voilà, c'est une prod qui a l'honneur d'avoir deux versions. Une version de Winem, une version de Winem et une version PNL.
C'est le côté dancehall, toujours.
C'est le redeem.
On va faire un one redeem bientôt.
C'est ça, c'est un one redeem, exactement.
On va faire un one redeem avec des rappeurs.
Et donc, ce morceau qui se retrouve à être Blanca, comme je le disais. Autre jeune artiste avec lequel vous travaillez et sur lequel il y a des productions, un album sur lequel il y a des productions à vous plutôt, c'est Zixo, qui sort un album qui s'appelle Temps également en 2019. Pareil, une question, est-ce que c'est des rencontres, est-ce que c'est des opportunités de studio? Comment se fait la connexion avec Zixo?
Alors, avec Zixo, c'est Thomas Ballmeyer. C'est Thomas Ballmeyer qui nous a contacté, qui nous a dit « J'ai un jeune là, il est chaud, je pense que ça matcherait bien avec vous.
Mm-hmm. » Est-ce que tu peux repréciser qui est Thomas Ballmeyer pour les gens?
C'est un directeur artistique. Je ne sais plus où il est maintenant, frérot, j'ai un doute.
Je ne sais plus non plus.
Voilà.
Mais c'est un DA en tout cas.
C'est un DA et c'est un bon. Big up à lui d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'apprécie bien. Et voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Et du coup, on rencontre en studio, on s'est super bien entendu et derrière, charbon quoi.
Ok. Est-ce que là, du coup, on revient sur cette, entre guillemets, économie du « on a ça de notre côté, on te le propose » ou est-ce que, parce que vous avez ce travail déjà avec Sadek, de faire des choses directement en studio en ayant un échange avec l'artiste, est-ce que c'est plutôt là-dessus que vous êtes parti avec Zixo?
Là, puis en plus, on avait un petit peu plus de bouteilles, un petit peu plus de poids, donc les artistes, ils t'écoutent plus.
Ouais, forcément, bien sûr.
Donc forcément, ouais, non. Et puis, on a pas mal géré ce qui est compo et réal au studio, tu vois, même s'il a ses idées et que, tu vois, il écoutait bien et... Voilà, c'est après ça se passait naturellement, mais bon, il y a eu plus d'échanges, oui. Ouais. Ça s'est fait pas mal fait en studio pour le coup, même les compos et tout. Il y a pas mal de choses qui se sont faites en live. Là où c'était le moment où on faisait quasiment tout en live. Tu vois, on avait décidé de plus trop composer de notre côté, d'arrêter de faire un son par jour comme des oufs et de concentrer notre créativité pour le jour où il y a des sessions. Et voilà, c'était un peu comme ça qu'on fonctionnait à ce moment-là.
Est-ce que ça booste la créativité, justement, d'être dans ce contexte-là?
Ça booste la créativité quand tu es avec une équipe, avec une énergie positive. Mm-hmm. Parce que si tu es avec une équipe, tout le monde te regarde comme ça, « Ah, j'aime pas trop tout ça hein, », ça va te niquer ta créa, quoi, tu vois.
Bien sûr.
Même ta confiance en toi et tout. Alors que, bon, quand tu es avec une équipe qui est « Ouah, ça tue ça » ou « Peut-être ça, je le verrai autrement, viens, fais comme ça, clac, clac », tu vois, ça crée une émulsion. Au final, ça devient plus que positif.
Moi, il y a un morceau en particulier que j'aime beaucoup sur cet album-là, parmi ceux que vous avez
produits. Enfin, là, c'était pas sur Zixo. Hein,
oui, de manière générale. Bien sûr, oui, tout à fait. Justement, moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup. C'est Vitrine. Mm-hmm.
Moi aussi, je l'aime beaucoup. Justement, j'y pensais déjà de base quand tu allais me dire Zixo, j'allais dire Vitrine, frérot.
Alors, moi, je l'aime beaucoup parce que, encore une fois, il y a ce truc très voyage, mais pourquoi toi, tu l'aimes beaucoup?
Bah, parce qu'il y a ce truc très voyage.
Voilà, on y a
non, non, c'est ça en plus, hein, tu vois, c'est que, parce qu'il y a une grosse musicalité, ouais, tu vois. Et que j'attendais pas Zixo spécialement sur ça, tu vois, surtout à ce moment-là.
Lui qui sort de tous ses freestyles où il découpe sur des prods un peu millésimés, quoi.
On a fait ce son-là. Et... Bah, moi, personnellement, pendant... parce qu'il a mis un petit temps à sortir ce son, chaque fois je l'appelais Zixo, frérot. C'est comment ce son-là? Viens... C'est trop chaud ce son-là, frérot. Tu vois, voilà, c'est un son que j'aime beaucoup. Vitrine.
Ouais, de ouf.
De bon face au jour, le regard perdu devant la vitre. Noyé face au doute comme un indien dans la ville. Armé de patience, je mets des bastos dans ma flemme. Plus en plus je grandis, je passe mon respect dans la femme.
Si je dis pas de bêtises, il y avait ma voix d'homme dans le titre. J'avais chanté derrière et tout. C'était ma voix.
C'est vrai, ouais. C'est toi qu'on l'entend.
Ouais, c'était moi.
Alors attends, c'est drôle parce que de mémoire, je crois que tu m'avais raconté que sur
c'est rare qu'on entend ma voix.
Jusqu'au dernier gramme, il y a cette espèce de truc qu'on entend le ah. C'était aussi vous qui vous étiez enregistré, c'est ça?
Ouais.
Voilà. Ouais. Bah, il faut vraiment utiliser tous les outils, quitte à mettre de sa personne, quoi.
Ah ouais, fort. J'ai même fait des... Après, c'est rare, hein, mais par exemple, j'ai parlé dans l'album d'Ornette, La Frappe.
Ok.
C'est le titre 40 ans.
Tout à fait.
Le voyou au début.
C'est toi?
C'est Bibi.
Ah, génial.
Ouais, donc trop voilà, bien. C'était moi qui parlais au début. Et,
qui est un super morceau d'ailleurs, qui n'est pas peut-être dans le répertoire d'Ornette le plus connu, mais je trouve que c'est un bon storytelling avec de la gamberge, tu vois.
Fort.
Il est cool,
je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord.
Et donc, ouais, c'est effectivement vous qui le produisiez. Donc, tu as été jusqu'à incarner un personnage. Dea Uzi toujours, on en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Moi, il y a sur son album Architecte, qui sort début 2020 de mémoire, il y a un morceau que j'aime beaucoup qui est En Avance, que vous produisez. Tu te souviens de ce morceau ou pas?
Ouais, c'est En Avance, normalement, c'est...
Parce que ça n'a rien à voir avec ce que lui faisait habituellement et c'est pas une prod qu'on entend aussi habituellement chez vous, avec cette basse très lourde, avec un beat un peu plus groovy, tu vois. Pareil, est-ce que ça, c'est un truc que vous lui proposez, sur lequel vous échangez? Comment ça fonctionne, tu vois, pour un titre qui détonne autant, tu vois?
Ouais, je me rappelle même plus, frérot.
Tu t'en souviens plus de celui-là? Ça arrive, hein.
T'as vu, on a fait tellement de sons, frère. Et à ce moment-là, non, je me rappelle plus. Je sais juste que c'est un son, moi, ça m'avait choqué à l'époque, justement, ouais. que ce son-là, il passait. Des fois, tu fais des prods et comme ça, et tu dis, oh, bon, celle-là, je vais jamais la placer, tu vois. Jusqu'à temps que t'as Daisy qui arrive et qui dise, ouais, tu. Et il a tué ça, tu vois. Mais je me rappelle plus vraiment de comment on l'a fait et tout, machin, tu vois. Ça commence à dater, machin, tu vois.
Bien sûr.
Je suis en avance sur ma lancée. Cendrillon veut son carrosse, je fais pas de lock, moi. Je veux une autre marque et une ro-ro. Je veux les sous, je suis pas patient, donne tout maintenant.
2020, on en parle un petit peu en off, mais tu vas pouvoir peut-être nous développer un peu ça. C'est la période du Covid, on est tous confinés. Comment toi et Red Nose, vous vivez cette période-là? Est-ce que ça ralentit votre activité ou est-ce qu'au contraire, parce que finalement, on se retrouve tous isolés et vous en studio, vous y étiez déjà en fait. Est-ce ça a eu un impact pour vous ou pas?
Bah, franchement, c'est limite, ça a eu un impact positif pour nous en fait. Dans le sens où, bah, de façon enfermée, on était déjà, nous, tu vois.
Bien sûr.
On était déjà en studio enfermé comme des bagnards. Mais avec la volonté. Hein. Et donc, nous, ça ne nous a pas dérangé. Et je pense qu'aussi, il y a eu une émulsion créative à ce moment-là où tout le monde était un petit peu bloqué chez lui et a commencé à se mettre à la musique ou à gratter. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi plein au niveau du studio et tout que pendant la période du Covid. Je pense que nous, ça n'a pas changé grand-chose, en fait, en vrai, tu vois.
Tant mieux, parce que je sais qu'il y a des personnes, quand bien même, tu sais, artistiquement, elles ont pu... ne rien changer à leur activité, tu sais, il peut y avoir des trucs personnels. Non, mais tu vois des trucs personnels qui sont compliqués à gérer à ce moment-là. Vous,
en fait, en vrai, t'as vu, c'est un peu bâtardé ce que je veux dire. Mais c'est une petite, tu vois, goûter à notre vie de compositeur, les artistes. Tu vois,
okay, ouais.
Vous avez vu, c'est quoi nous notre vie, tu vois, quand t'as pas les shows, quand t'as pas, t'as vu les à côté, tout ça.
T'as juste à te concentrer sur le studio là.
Voilà. Bah tiens, un petit bout de notre vie, tu vois. C'est comme ça qu'on vit, nous. Donc voilà, c'était positif, je pense.
Et est-ce que de cette période est ressorti des choses justement notables dans la discographie qui va suivre pour vous? Je pense parce qu'il y a Aimon Nous Vivant qui va sortir de Sadek l'année d'après, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui ont déjà été concoctées, cuisinées à cette période-là? Tu arrives à te souvenir de ça ou pas?
Oui, je crois que ça a été concocté pendant cette période-là, mais j'avais fait un studio aléatoire chez moi pour le premier confinement, parce que du coup, le premier confinement, on l'a tous respecté.
Ouais.
Et donc, le premier confinement, j'étais chez moi, et enfin, on était chez nous. Ouais, pareil, on a composé à ce moment-là. Ouais, c'était à ce moment-là. Et après, derrière, bon, deuxième confinement, tout ça... Moi, je me suis enfermé au studio au lieu de m'enfermer chez moi. J'ai dit, c'est mieux, laissez-moi tranquille. Je vais charbonner là-bas, je ne sors plus. C'est bon.
Surtout que oui, vous veniez à ce moment-là, on parlait de ce fameux studio Abyss Music. Vous veniez en plus de le reconfigurer un petit peu, justement, pour avoir plus de place, plus d'espace, et des meilleures conditions de création, quoi.
Exactement. Donc, ouais, forcément, j'ai envie de profiter de mon studio. Je n'ai rien à faire chez moi, tu vois. Donc, ouais, c'était une... Je pense que, comme beaucoup d'artistes, hein, la période du confinement, on s'est confiné en studio. On a créé, on n'a pas fait autre chose que ce qu'on fait d'habitude.
Bien sûr.
Ça ne nous a pas changé la vie. Je pense que ça devait changer la vie de tout le monde, sauf nous. Tu vois, les compositeurs, les ingé-sons, tout ça. On s'est tous regardés. Oh, bah tiens, goûtez notre vie, hein, les gars. C'est comme ça qu'on vit, nous. Tu vois, donc ça ne nous dérange pas.
On le disait, tu es à la fois ingé-son et compositeur. Est-ce qu'il y a parfois des règles que tu as assimilées en tant qu'ingé-son qui sont rentrés en opposition avec tes envies créatives de beatmaker. Tu comprends ce que je veux dire ?
Fort. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça veut dire que quand je compose, j'oublie totalement que je suis un G-son. Tu vois ? J'essaye totalement de pas toucher un équal, de pas toucher une compression, de pas partir en folie, tu vois ? Pour rester très, en fait, musical et avoir les idées artistiques. Et après, je fais le geek, t'as capté. Genre, sinon, trop compliqué. Tu vois, je perds les idées créatives, je vais pas loin et je fais un titre comme tout le monde.
Ouais, tu te contrains, tu t'auto-contrains, en fait, c'est ça.
En fait, le côté ingé-son, il va te pousser à en faire moins, en fait. Tu vois. Donc, c'est toujours
c'est ton balance. C'est ton côté raisonnable, quoi, le côté ingé-son.
Ouais, le côté ingé-son, c'est le côté raisonnable. Parce que forcément, plus que tu vas charger un son, moins que tu vas pouvoir le faire sonner fort ou tu vois, le faire péter. Plus que tu as de l'instrumentation, plus que tu as du monde, plus que c'est complexe, tu vois, à faire sonner. Et donc, ton côté ingé-son, il pousse à en faire moins et ton côté créa, il te pousse à en faire plus. Mmh. Donc, après, c'est une bonne balance entre les deux, tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas.
Est-ce que tu as un cas pratique, un souvenir d'un morceau, d'un truc que vous avez placé, où il y a eu cette, pas cette contradiction, mais ce truc où tu as senti que, ah ouais, j'ai vraiment été loin là en tant que beatmaker, et tu as dû recorriger, rebalancer des choses en tant qu'ingénieur du son. Je sais pas si tu as un souvenir en particulier d'un truc.
Enfin, il y a plein de titres comme ça. Ça veut dire que même souvent, je vais pas te sortir un cas direct.
Ouais, bien sûr.
Mais souvent, je vais composer, on va composer, on fait un son, ça pose, et puis on se rend compte qu'il y a un élément en trop, et puis on le zappe, quoi, tu vois. Genre. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai pas d'exemple directement en tête à te dire, ouais, ce titre-là, par exemple, tu vois, je réfléchis, mais. Ça, c'était souvent des choses qu'on faisait dans le premier temps, tu vois, au fur et à mesure, quand tu comprends, tu sais qu'il faut pas charger et que, tu vois. Bon, après, le son, il évolue toujours. Donc, on va de plus en plus vers un truc minimaliste. Mais ouais, ça arrive souvent, ça. Tu vois. Souvent, on repasse derrière, pas pour ajouter, mais beaucoup plus pour enlever.
OK. Ouais. Je le disais, donc, en 2021, il y a ce nouvel album de Sade qui sort, qui est Aimons nous vivants, sur lequel vous travaillez encore beaucoup. Même question que je t'ai posée pour les précédents. Est-ce qu'il y a un morceau ou deux morceaux en particulier qui te paraissent notables justement sur les envies musicales, le travail artistique que vous avez eu avec Sadek sur un album comme celui-là?
En fait, pour le coup, j'aime un peu tous les titres, mais c'est pareil, ça a été fait très en freestyle de l'autre côté, tu vois. Je pense que tu as vu là, c'était une retrouvaille, tu vois, une retrouvaille avec Dexa et le rap, et donc du coup. C'est pas à poser des tonnes de questions, tu vois. C'était fluide. On avait déjà fait 3 albums ensemble, donc forcément, c'est pas trop pris la tête.
Tout droit.
Mais après, je pense que c'est robuste. C'est robuste que j'aime beaucoup sur cet album-là, peut-être un peu plus que les autres. Mais bon, chaque titre se. En fait, c'est compliqué quand t'es compositeur, parce que chaque titre, c'est tes bébés.
Bien sûr.
Donc c'est comme si j'ai l'impression de dénigrer mes enfants, tu vois, genre, ou que j'en préfère un par rapport à l'autre, tu vois, donc...
Et parce que je sais que parfois, alors c'est peut-être pas ton cas, et évidemment, c'est normal, c'est ton droit, hein, mais je sais que parfois, il y a des producteurs qui ont un regard rétrospectif sur leur propre travail, de se dire, ah là, je trouve que, ce que j'ai pensé, je l'ai mieux mis en adéquation, tu vois, par rapport à mes... tu vois, mes envies, comment j'ai réussi à le faire, tu vois, avoir ce regard parfois rétrospectif, ce qu'on n'est pas obligé d'avoir en tant qu'artiste.
Non, je ne l'ai pas, moi, je regarde rarement le rétro. Pour moi, le passé, c'est le passé.
Ouais, tout droit, les œillères.
Je suis un ouf avec ça.
Le couloir.
Exactement. Genre, tête dans le guidon, comme je dis souvent, tu vois. J'ai la tête dans le guidon et je regarde rarement le passé, parce que le passé, c'est le rétro, tu vois. Si je regarde trop le passé, je vais revenir en arrière, ce n'est pas mon idée, tu vois.
Moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup, une production sur ce disque-là que vous avez fait, c'est justement... VBONTMB va braquer ou Nick Tamer Bâtard, où on revient sur un truc rap français un peu années 90, tu vois, sur ce piano mélancolique, sur cette rythmique boom bap sans vraiment l'être, tu vois, mais sur un style un peu millésimé, quoi, tu vois. Et je trouve intéressant comment vous-même vous êtes revenu là-dessus et comment vous essayez de le faire sonner à votre manière, quoi.
C'est totalement ça. Ouais. On va dire que c'était une envie, là, pour le coup, de... Autant Petit Prince, ça s'est fait dans la spontanéité. Autant celui-là, on s'est dit, bon, on va essayer. C'était pas un Petit Prince 2, mais c'était un peu l'idée de la continuité Petit Prince, sans vouloir faire la continuité, tu vois, sans vouloir faire la même chose exactement.
Violence acoustique, ça tombe à coup sûr. Pour couver blessure, ils sont sur tes côtes, y'a plus de côte d'azur. Trop, y'a pas de gars sûr, achète un taser. Petit frère, t'es pas passé, bah tu payes pas le passeur.
On parlait justement de cet artiste d'Oniem, qui est, je crois, de Mantes-la-Jolie, c'est ça, à la base ?
Exactement.
Alors, je vais te dire un truc peut-être qui va te surprendre ou ça se trouve pas du tout. Donc, un disque sur lequel vous travaillez avec lui qui s'appelle Constellation. Je trouve que c'est peut-être le disque où vous êtes producteur majoritaire sur lequel vous essayez le plus de choses musicalement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas sur des teintes justement musicales avec lui. Comment vous le rencontrez et comment vous êtes amené à travailler sur ce disque ?
Alors, Doniem, on a travaillé avec lui. C'est Mousse Parage qui a fait la connexion.
Ok.
Donc, Mousse qui nous l'a présenté. Et en fait, je pense que si on a testé beaucoup de choses sur cet album-là, c'est parce qu'il était ouvert à ce qu'on teste beaucoup de choses sur cet album-là. Tu vois,
ouais, en fait, quand, en tant que producteur, vous êtes tributaire, en fait.
Énormément.
Des envies des artistes, quoi.
Énormément. Énormément. Et lui était très ouvert à ce qu'on fasse de l'originalité. Et à chaque fois qu'on faisait de l'originalité, il était chaud et il partait. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a pu se permettre pas mal de choses.
Il y a un morceau, au vu de ton parcours, je trouve qui résonne pas mal, c'est « Laisse-moi tomber », où il y a des espèces d'accords de guitare un peu reggae, justement. Ça me fait dire qu'un artiste comme ça aussi, il était peut-être preneur de ce genre d'idées et de cette expérience accumulée aussi que tu pouvais avoir, quoi.
Fort, exactement. Je peux pas dire, mais c'est quelqu'un qui était très ouvert dans la musique et qui était demandeur d'originalité. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a un titre en particulier que vous avez produit pour lui, que vous avez travaillé avec lui, que tu aimes particulièrement, tu vois ?
Franchement, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup les titres avec Dany, moi. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Il y en a, c'est Luna.
Ah ouais, je crois que c'est Pleine Lune.
Pleine Lune.
Avec une rythmique un peu dancehall.
Ouais, c'est ça. Et en fait, si je peux le dire, c'est moi qui ai fait la top line.
D'accord.
Voilà, c'était. Ça a une petite saveur particulière pour moi, parce que c'est rare que je fasse des top lines. Et pour le coup, je m'étais ambiancé, j'avais fait une top line, il avait écouté, il avait kiffé la top. Et il l'a tué. Tu vois, il a tué la top line, frérot. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et je me rappelle, j'étais au Mexique quand j'ai entendu le titre. On voyait le titre du Mexique, j'ai passé mes vacances au Mexique avec le titre, tu vois, genre, voilà. Ça m'a suivi dans tout Tulum, Cancun et tout, j'étais avec mon son d'Oniem comme un ouf. Ouais, j'ai kiffé.
Il y a un artiste émergent qui commence à se faire son petit trou aussi, avec lequel vous travaillez ces dernières années, en tout cas sur son premier long format, c'est Zamdane, rappeur du sud de la France, avec son disque Couleur de ma peine. Comment s'est fait la connexion avec lui et qu'est-ce qui a pu vous plaire justement et qui vous a donné envie de travailler avec lui?
Alors, Zam, c'est un gros coup de cœur musical et humain de notre côté. Et en fait, musical dans un premier temps, donc j'ai découvert comme tout le monde sur Internet, tu vois. Et quand on a écouté ce qu'il faisait avec Red, on s'est dit, frère, il est trop fort le jeune, là, faut qu'on travaille avec lui. Donc on lui a envoyé un message, il nous a répondu direct, oh les gars, on est chaud, il est venu à Paris le lendemain, on a taffé un son. Et c'était le premier son de son album, là.
Tout ce qu'il voulait.
Tout ce qu'il voulait.
Tout ce qu'il voulait, c'était changer sa vie. C'était changer sa vie. Mais ici-bas, il voit pas de paradis. Il voit pas de paradis.
Est-ce que du coup, à force d'expérience accumulée, maintenant, quand vous rencontrez des artistes qui ont déjà quelque chose d'affirmé artistiquement, vous savez déjà où les emmener? Est-ce que vous savez déjà quel contre-pied vous pouvez leur offrir? Là où avant, vous étiez plus freestyle, à dire, voilà, on a ça,
moi,
cadeau.
Moi, je suis toujours très freestyle.
Okay.
Moi, je pense au feat. En fait, c'est un feat entre nous. Tu vois. Ouais. Donc, c'est... J'y pense pas spécialement avant de qu'est-ce que je peux ramener. C'est surtout la rencontre et voir où est-ce qu'on peut aller, en fait, tu vois. C'est en discutant ça après avec les artistes, tu vois où est-ce que tu peux aller et peut-être pas spécialement faire les mêmes choses que tout le monde, tu vois. Et je trouve ça intéressant de tester, tu vois. Sur un artiste comme Zam, tu sens directement que le gars, il est créatif et que, tu vois, tu peux aller un peu partout. Un peu partout. Clairement, musicalement.
Ah oui, quand on écoute un morceau comme... c'est une coproduction avec Dance, avec qui il bosse beaucoup, mais un morceau comme Fluka, par exemple, là, effectivement, tu...
Clairement.
Très diversifié musicalement, quoi.
Exactement.
Du mat, tu vois, le ciel et les oiseaux s'envolent et on bonde. Tu es avec deux frères, on sait qu'on a peu de chance pour qu'on survive ensemble. Je sens le sel sur ma peau. Lolita s'inquiète, elle m'appelle. Si je réponds, je lui dis quoi, j'ai vu à cause de la pauvreté de mon pays, c'est de sa faute.
Les galères, parce que t'as vu, là, c'est vraiment, on va rentrer dans la technique. Les compositeurs, ils vont capter. Le tempo, il n'y en a pas.
Oui.
T'as vu, ça évolue tout le titre. Tout le titre, les BPM, ils changent. Tu vois, quasi. Donc, pour la synchro, resynchro, entre mix, compo, premier record, tout ça, machin, ça a été compliqué. Mais au final, c'est justement ce qui donne la particularité de ce titre, c'est que c'est un titre qui fluctue beaucoup et pour le coup, qui voyage beaucoup. Tu vois, genre, on passe, de 2-3 univers dans le même titre, tout en gardant la même continuité mélodique. Voilà.
C'est effectivement un titre esthétiquement intéressant pour tous les détails que tu viens de préciser. On va finir, on arrive sur la fin de ce podcast, il faut quand même qu'on parle de cet artiste-là, Ouai Renaud, avec qui vous travaillez aussi ces dernières années, sur Telegram, Carré, Telegram 2. Je trouve que dans les productions que lui a choisies ou que vous avez travaillé avec lui, tu vois, pour me préciser ça, il y a ce retour du motif très cinématographique justement avec lui. Comment vous vous êtes amené à le rencontrer? Est-ce que c'est quelque chose que vous développez ensemble, justement, cette teinte que je perçois? Peut-être que je me trompe.
Alors, comment on s'est rencontré? C'est parce qu'il venait enregistrer au studio de base.
Ouais.
Du coup, voilà, aussi simple que ça.
Encore une fois, la connexion humaine facilitée, quoi.
Exactement. Et ça, je pense que c'est pas spécialement ni une volonté de notre part, ni peut-être de sa part, c'est peut-être volontaire, je sais pas, je peux pas parler à sa place. Mais je pense que c'est son oreille, tu vois, qu'il fait tendre à ce genre de sonorité. Nous, on s'en rend pas spécialement compte. Ouais. Mais au final, tu vois, c'est ce qui en ressort, tu vois. Donc, surtout nous, le kiff, ça a été de d'avoir, entre guillemets, une nouvelle musicalité sur un domaine qu'est le cru, tu vois. Et on kiffe ça quand même, tu vois. Donc c'est cool, super cool à travailler en studio.
Ouais, moi parce que quand j'entends des morceaux comme Déjà Vu, comme L'Ancien, je trouve qu'il y a vraiment ce truc justement très presque, tu vois, encore une fois, de poser une ambiance cinéma, tu vois. Et je trouve que ça fonctionne bien au vu de ce que vous savez faire et au vu de ce qu'il veut choisir.
En fait, penser à une ambiance, ça, on fait à chaque prod, tu vois. mais on pense pas spécialement cinéma, on pense ambiance.
Ouais, ouais.
Alors peut-être que c'est ça qui fait penser au cinéma, peut-être parce que c'est comme ça que aussi pensent, tu vois. Mais c'est pas dans cette volonté de vouloir sonner cinéma, c'est dans la volonté de vouloir sonner ambiance, tu vois, de ramener un mood, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique.
Nous, le but, tu m'en vis dans ça. On te laisse par terre si tu fais l'ancien. Les écoutes, pas, ils ont dénoncé. C'est des mythos, ils sont innocents. Ils sont vides, ils sont vides danger. Pas derrière ça pour les financer.
Sur le plus ou moins long terme, est-ce que tu as des envies particulières pour le futur? Est-ce que. Il y a l'idée de réaliser des albums entiers avec des jeunes artistes. Est-ce qu'il y a l'idée de développer encore plus le label de... voilà. C'est quoi, toi, tes envies, tes désirs, on va dire, artistiquement, pour les prochaines années, là?
Ouais, bah écoute, il y a pas mal de choses qui...
Et je dis toi, mais vous bien aussi, sûr. Tu vois, ça peut être
bien
vous.
Sûr. Bien sûr, il y a plein de choses qui se pensent. Actuellement, on est sur un jeune aussi qui s'appelle AZ, un jeune rappeur de chez nous qui déboîte tout. Vous allez en entendre parler très bientôt. Donc lui, je suis sur le développement de cet artiste. Enfin, on est sur le développement de cet artiste. On est aussi à la recherche de nouveautés, tu vois. On est toujours à écouter ce qui se passe et les nouveaux artistes et les nouvelles sonorités. Et toujours la même continuité, mais en essayant d'aller plus loin, tu vois. Et puis, j'aimerais bien, moi, et puis même Red, hein, on aimerait bien se tourner un peu plus vers l'international, hors américain, tu vois.
Tu penses à l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie.
Exactement, exactement. Je trouve qu'actuellement, il y a une effervescence d'artistes mondiaux, tu vois, et que je trouve plus de créativité justement dans le reste du monde qu'aux États-Unis où ça a commencé peut-être à me gaver un petit peu à écouter les mêmes choses, tu vois. Donc, je suis dans ce truc-là, à essayer d'aller un peu partout, en Europe et dans le monde, pour découvrir des artistes. Non, je suis dans celle-là.
Envie de développer tes skills d'ingé son aussi? Est-ce que tu te verrais être un full ingé son dans quelques années?
Non, pas nécessairement. Ça, c'est la carrière du passé, ça.
Ok.
Tu vois, je l'ai mis derrière, cette carrière-là. J'ai formé des ingé sons, et donc gros big up à La Magie et Romain, et un gros big up à Elton aussi. Et du coup, cette carrière-là, moi, personnellement, je l'ai mis un peu derrière. Mm-hmm. Je préfère laisser la place aux gens qui ont envie, tu vois. Moi, je n'ai plus spécialement l'envie. Hein. Gesson, c'est un métier particulier. Et peut-être développer les studios, tu vois. Encore plus, peut-être en développer d'autres et tout, mais pas en tant que moi derrière les manettes, tu vois.
Ok. Dernière question, alors elle va être difficile celle-là au vu de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Imagine, tu te présentes à quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre musique avec Red Nose. Il faut que tu te présentes à lui en une seule production que vous avez faite. Ce serait laquelle?
C'est compliqué. Hein. Ah, je dirais jusqu'au dernier gramme, parce que c'est jusqu'au dernier gramme ou Blanca, parce que c'est ce qui a eu le plus d'impact sur la population, tu vois. Donc c'est souvent sur ça que je veux. Tu vois, pour te présenter en une production, tu cites ce qui a le plus fonctionné.
Bien
quoi,
sûr.
Tu vois, donc, voilà.
Très bien.
Tout simplement.
On salue évidemment Red Nose, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui.
Gros big up et gros bisous, mon frérot.
Gros big up à lui. Grande salutation. Il n'a pas pu être là, malheureusement, aujourd'hui, mais tu as représenté le duo brillamment. Merci à toi d'avoir été avec
nous.
Il
y en a l'autre, c'est pareil. C'est comme Dick et Tac.
Si tu en tues un, il en reste un, comme disait un duo dont tu...
le long chauve.
Exactement. T'en parlais tout à l'heure dans les disques marquants. Merci à toi, Yann, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec des producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien, Yann.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.